Soyez bienvenus, nous sommes comme chaque semaine très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Votre émission qui porte d'ailleurs particulièrement bien son titre aujourd'hui, jugez-en avec ce sommaire mondial. Tout d'abord, Donald Trump à la Maison Blanche depuis 48 heures, un président mais l'impression d'avoir deux Amériques face à face. À Londres, c'est Theresa May, première ministre, qui annonce un Brexit dur, clair et net. On pourrait également parler du contre-sommet de l'extrême droite, contre-sommet européen à Koblenz en Allemagne, et puis naturellement en France aujourd'hui, une consultation, la primaire de la gauche pour désigner le candidat qui, peut-être, pourrait briguer d'être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle dans 2 mois. Notre invité aujourd'hui a naturellement les éléments pour répondre à toutes ces questions. Elisabeth Guigou, merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous avez occupé différents postes ministériels, dont les affaires européennes, ce qui permettra donc de répondre à cette situation sur le Brexit. Nous allons parcourir cette actualité très riche avec Sophie Malibeau de RFI Radio France International et avec Christophe Ayad du quotidien Le Monde. Alors, avant de vous entendre, revenons, si vous voulez bien, sur cette image à laquelle nous allons devoir nous habituer, celle du 45e président des États-Unis d'Amérique.
À peine installé dans le bureau ovale, Donald Trump veut montrer qu'il se met au travail sans attendre. Le nouveau président des États-Unis signe son premier décret, un texte très symbolique qui vise à défaire la loi Obamacare, emblématique de son prédécesseur.
Où souhaitez-vous la signature ?
Le nouveau gouvernement commence à prendre forme. 2 nominations sont désormais officielles et concernent 2 généraux à la retraite. James Mattis à la défense et John Kelly en charge de la sécurité intérieure. Quelques heures plus tôt, sous une pluie fine, en présence de plusieurs anciens présidents américains, Donald Trump prête serment et reprend son slogan de campagne.
Together, we will make America strong.
Nous rendrons sa force à l'Amérique. Nous rendrons sa richesse à l'Amérique. Nous rendrons sa fierté à l'Amérique. Nous rendrons sa sécurité à l'Amérique. Et oui, nous rendrons sa grandeur à l'Amérique.
America great again.
Elisabeth Guigou, Trump, c'est un nouvel ordre mondial ?
Non, c'est quelqu'un qui se situe dans la ligne de la poussée populiste partout dans le monde. Je pense que il continuera à être Trump, naturellement, on ne change pas à 70 ans. Et il continuera à faire du Trump. La seule question, c'est de savoir comment vont réagir à la fois les membres du Congrès. Est-ce qu'ils vont le laisser faire ? Parce qu'il est quand même à contre-courant de son propre parti, par exemple sur le protectionnisme. Et comment va réagir le peuple américain ? Vous avez vu ces manifestations monstres.
On va y avoir quelques images de ces 2 millions de manifestants et de manifestantes, en effet, qui sont très... Et est-ce qu'il vous inquiète, Trump, en tant que tel ?
Bon, écoutez, moi j'aurais naturellement préféré qu'Hillary Clinton soit élue. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui intervient comme ça, de façon qui est très très désordonnée, très assez grossier dans son expression. Bon, mais le peuple américain l'a élu. Et il va être obligé de tenir compte. Il dit je suis élu, j'ai été élu parce que le peuple a voulu quelqu'un qui lui ressemble. Donc il va être obligé, il méprise les médias, donc ce que les médias peuvent dire.
Oui, ça n'a aucune... plus malhonnête que la terre est portée, oui.
Voilà, ça n'a aucune importance pour lui. En revanche, des millions de manifestants et une réaction aussi unanime des femmes quand même par rapport à ces projets de suppression de l'avortement, ça c'est le peuple. Et donc, il va être obligé, à mon avis, d'en tenir compte. Et puis, il y aura les contre-pouvoirs du Congrès. Ce qui est sûr, c'est qu'il va nommer prochainement un juge à la Cour suprême qui va être forcément
conservateur.
Donc c'est un risque.
Sophie Malibeau.
L'avertissement que cela donne, cette manifestation monstre au lendemain de son investiture, donc sur la cause des femmes, etc., c'est un signal d'inquiétude extrême aux États-Unis. Mais vous disiez qu'il était l'illustration d'un courant mondial, en fait, d'une sorte de réaction conservatrice. Est-ce que vous trouvez qu'ici aussi, en Europe, on a de quoi s'inquiéter sur ce type de sujet
Pour compléter la question de Sophie, il y a une manifestation contre l'avortement aujourd'hui en France.
Bien sûr, et je trouve que c'est assez salutaire, si vous voulez, de voir partout en Europe, en France, mais aussi partout en Europe, des femmes qui disent « c'est pas possible ». Et donc, ces populistes sont obligés de tenir compte de l'état des opinions publiques. Voilà. Alors maintenant, Monsieur Trump a été élu. Il va mener la politique qu'il a annoncé mener. Avec probablement quelques bémols, mais moi je suis pas. Je pense après, tout dépend aussi nous Européens, ce que nous voulons faire. Monsieur Trump pourra, il peut pas dicter sa loi au monde. Nous sommes dans un monde qui est beaucoup plus hétérogène, si vous voulez, que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où c'était vraiment l'hégémonie américaine, puis après l'hyperpuissance américaine. Mmh. Aujourd'hui, je ne vois pas comment Monsieur Trump peut dicter sa loi à la Chine. Regardez que Monsieur Poutine, ils se sont fait des grâces mutuelles pendant la campagne, mais enfin, il va mettre
quelques mois, oui,
du temps à le recevoir. Oui. Quelques mois,
absolument.
C'est quand même assez révélateur.
Elisabeth Guigou, je reviens au discours de Trump. Son slogan principal, c'est « America first », l'Amérique d'abord. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'alliés, il n'y a plus d'alliances, les États-Unis font leur politique, que ça soit vis-à-vis de gens dont ils étaient proches, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ou de gens lointains, la Chine et autres?
Oui, c'est-à-dire, moi je vois ça plutôt comme le retour à un courant qui a toujours existé aux États-Unis, celui de l'isolationnisme. Enfin, ça remonte même au 19e siècle. Avec une outrance dans l'expression, ça va être intéressant de voir si M. Trump, qui va à un moment donné se poser la question de l'image qui va donner dans l'histoire, va continuer sur ce mode d'expression, parce que les mots comptent, évidemment. Mmh. Mais... Bon, c'est un courant isolationniste.
Il n'est pas au pouvoir depuis très longtemps aux États-Unis.
Non, bien sûr. Il y aura, bien sûr. Mais regardez, Obama déjà avait donné des signes de désengagement. C'est particulièrement net au Moyen-Orient quand même. Il n'a pas levé le petit doigt. Il a laissé Kerry, qui s'est démené comme un beau diable.
L'Amérique s'est quand même abstenue sur l'affaire de la résolution de l'ONU sur la colonisation.
Exactement. Donc, vous vous souvenez de la dérobade funeste, quand même, lorsque M. el-Assad a franchi la ligne rouge que Barack Obama avait lui-même fixée, c'est-à-dire ne pas utiliser d'armes chimiques contre son propre peuple et d'ailleurs contre quiconque. Donc, à la dernière minute, quand même. Donc, on peut dire qu'il y a une sorte d'évolution et que ça doit nous inciter, nous, Européens, de prendre davantage nos affaires en main, mais je suppose qu'on va y revenir.
Mais là, j'y reviens. J'insiste, vous avez un président américain qui dit l'OTAN est obsolète.
Voilà. Oui.
Il va beaucoup plus loin que Barack Obama, que quiconque avant.
Oui.
Est-ce que l'OTAN est obsolète et que les Européens doivent désormais veiller à leur propre sécurité parce que cet instrument n'est plus tout à fait fiable et qu'on n'est pas sûr du tout que les Américains assureront une protection?
Ça, c'est évidemment une question très importante. Monsieur Mattis n'a pas tout à fait dit ça. Hein, son ministre de la Défense, donc. Mmh. Je crois, moi, très très important que l'Alliance Atlantique perdure. Ceci dit, il y a eu ces dernières années, à mon avis, par exemple, un élargissement de l'OTAN qui a été qu'on n'aurait pas dû autoriser. L'OTAN n'a pas été faite pour ça. Alors que l'OTAN défende le territoire de l'Europe, elle a été créée pour ça. Que on ait, par exemple, un renforcement de la présence de l'OTAN dans les pays baltes ou en Pologne, dans les endroits, mais pas de façon agressive. Les missiles, qu'est-ce que vous voulez, c'est une provocation, à mon avis, inutile. Inutile vis-à-vis de M. Poutine. Mais un renforcement de la présence conventionnelle pour interdire les incursions russes qui se font quand même un peu partout. Ça, c'est une alliance défensive. Hein, qui, à mon avis, reste utile. Mais arrêtons d'élargir l'OTAN. Mmh. Quand, en 2008, au sommet de Bucarest, Monsieur Sarkozy et Madame Merkel ont évité le pire, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte à l'Ukraine et à la Géorgie pour entrer dans l'OTAN, ce qui aurait été pour la Russie, enfin, quelque chose presque une déclaration de guerre. Ils ont quand même accepté la perspective de les voir adhérer à l'OTAN. Alors, M. Poutine, il en a fait un prétexte. Voilà, un prétexte pour se comporter comme il l'a fait en Ukraine, pour annexer la Crimée. Et je trouve que ça, c'était pas très intelligent.
Voyez. Elisabeth Guigou, que reste-t-il d'Obama? On a prononcé son nom ici. Il reste quoi? Le prix Nobel de la paix, qu'il a eu d'ailleurs dès le début de son arrivée à la Maison-Blanche. Il reste une belle image, quelqu'un de populaire qui a été aimé dans le monde. Mais quel bilan au moment où il quitte la Maison-Blanche?
Moi, je trouve qu'il a un bon bilan intérieur, Obama.
Hein. Obamacare est détricoté, c'est son système de santé.
Il n'y a pas que l'Obamacare. Ouais. Enfin, sous sa présidence, pendant les 8 ans, le chômage a été divisé par 2. La croissance est revenue. Il a fait voter la loi Dodd-Frank pour quand même réguler un minimum la finance, séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt. Les États-Unis n'ont pas été pour rien dans la fin du secret bancaire dans le monde. N'oublions pas que ce sont eux qui ont fait plier la Suisse là-dessus. Et que l'Union européenne n'a fait que suivre, alors qu'on aurait dû depuis longtemps mettre fin à tout ça.
Donc il laissera une trace, il laissera une marque.
Non, mais et l'Obamacare, c'est quand même... Alors, il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait, puisqu'il y a 40 millions d'Américains non assurés. Il y en a maintenant une vingtaine de millions, 22 je crois, assurés. Bon, mais quand même. Et je doute que M. Trump arrive à supprimer complètement l'Obamacare. D'ailleurs, lui-même, M. Trump, a dit qu'il fallait trouver quelque chose pour le remplacer, parce qu'il ne peut pas, naturellement, être indifférent à cette inquiétude profonde, non seulement des Américains qui sont modestes, enfin, qui n'ont pas d'assurance, mais des assureurs, mais des médecins, mais de toute une partie de...
Sophie Malibaud.
Quelque chose de nouveau aussi avec Trump, c'est sa façon de communiquer, sa façon compulsive de recourir à Twitter pour communiquer directement. Alors peut-être avec ses électeurs, avec les Américains, mais pas seulement. Alors comment est-ce que les Européens, comment est-ce que les gouvernants doivent réagir à cette tweetomania de Trump ?
Oui, alors je me souviens d'une couverture du New York Post, deux jours après son élection, Commander in Tweet. Et, alors il y en a d'autres qui disent Twitter in Chief. Bon, très bien. Écoutez... franchement, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de son personnage.
Oui, mais quel crédit est-ce qu'on doit donner à ces déclarations sur Twitter ? Est-ce que les gouvernements doivent réagir à une administration ou à un homme qui tweet à la tête
Je veux dire, on n'a pas se laisser balloter par M. Trump, c'est tout. Il est ce qu'il est, les Américains l'ont choisi, il faut faire avec. Pour faire avec, malheureusement, moi je préférais.
Mais ces tweets sont.
Mais ces tweets, c'est des tweets. Et alors, que pèsent les tweets ? Les tweets n'ont de valeur que celles que vous leur donnez, et puis c'est tout.
Christophe Ayad.
Je reviens aux Européens, Madame Guigou. Il semble que Donald Trump, il ait quand même une sorte d'hostilité fondamentale au projet européen. Lorsqu'il dit le Brexit, c'est formidable, vous allez gagner de l'argent, vous allez. La Grande-Bretagne va aller de mieux en mieux et d'autres vont suivre. Est-ce que Trump veut détruire l'Union européenne ?
Non, je ne crois pas. Je crois que tout dépend de ce que les Européens vont faire de notre Europe. Voilà.
Comment ils doivent réagir
qui est bien
à ce genre
malade,
de propos ?
Qui est bien malade et qu'il faut absolument refonder. Pourquoi ? Mais parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui faire face à quelques-uns des grands défis transnationaux qui sont là pour les Européens. Que ce soit la question des réfugiés, où il faut évidemment les accueillir avec une solidarité davantage, que ce soit la question de la croissance économique et de la relance, que ce soit la question du terrorisme, des relations avec nos grands voisins que sont la Russie, et il faut une politique européenne vis-à-vis de la Russie qui soit un mélange de fermeté, bien sûr, et de dialogue, mais vis-à-vis de notre Sud. Et je ne vois pas comment, c'est ça, aujourd'hui, si les Européens décroche ou se détache, si vous voulez, de l'Europe, c'est parce qu'ils ont l'impression que l'Union européenne ne répond pas aux défis d'aujourd'hui. Or, l'essentiel des défis d'aujourd'hui, ils viennent de l'extérieur, contrairement à ce qui se passait au XXe siècle, où le principal défi, c'était de plus jamais faire la guerre entre Européens. C'était un défi interne à l'Europe. Aujourd'hui, les défis viennent de l'extérieur. Il faut que l'Europe se dote d'une politique étrangère.
Mais les défis ne viennent pas que de l'extérieur. Il y a quand même ce problème économique et ce problème de la relation avec Bruxelles, avec la Commission. On voit, par exemple, un ministre des Finances italien déclarer, il y a quelques heures, que le problème de l'Europe, c'est l'Europe, et que, en fait, Bruxelles est en train d'empêcher l'Italie de retrouver de la croissance, en demandant à l'Italie de brider encore son budget, alors qu'elle est confrontée, justement, à ces défis que sont l'entrée des réfugiés, des migrants, plus les catastrophes naturelles, etc. Comment Bruxelles peut empêcher les Italiens de faire les dépenses dont ils ont besoin pour redémarrer?
Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut, il ne faut sûrement pas abandonner La nécessité de renforcer l'union économique et monétaire dans toutes ses composantes, c'est-à-dire pas seulement l'union monétaire, il reste à faire l'union bancaire, hein, avec la garantie des dépôts. Ça, pour l'instant, c'est gelé, on va dire. Mais il faut surtout faire une véritable union économique où on se préoccupe de l'effet de la politique monétaire et de la politique économique sur l'ensemble des États membres. Et moi, je trouve, voyez-vous, que vis-à-vis de l'Italie, oui, qui a fait de gros progrès, et vis-à-vis de la Grèce, encore plus, hein, avec un monsieur Tsipras, qui a fini par accepter, difficilement, mais il a fini par accepter de réformer son pays profondément, de se conformer aux règles que les Européens se sont donné eux-mêmes. C'est pas la Commission qui a inventé le traité d'union monétaire. Ce sont les Européens qui ont signé un traité. Donc, il faut évidemment respecter ces règles, mais le faire avec, avec doigté. Les Italiens doivent respecter les règles, mais ils ont fait des progrès, et je pense qu'il faut en tenir compte. Par exemple, nous allons être là-dessus, hein. Moi, je crois qu'il faut qu'en France, nous continuions nos réformes et que, naturellement, nous montrions à nos partenaires que nous respectons les disciplines communes. Mais l'Europe devra tenir compte du fait que la France assure une bonne partie de la sécurité des Européens en général, avec ses dépenses militaires et avec ses dépenses de recherche.
Alors, un mot qui va beaucoup revenir dans l'actualité des prochaines semaines, on en parle à l'instant, c'est le mot Brexit. Un éclairage de la part de Theresa May, cette semaine, la Première ministre britannique, qui annonce très clairement une sortie nette de cette Union européenne. Je vous propose de l'entendre et nous vous demandons votre réaction.
Quelle suite au non retentissant des Britanniques à l'Union européenne en juin dernier? Le discours de Theresa May était très attendu, il fera date. Le Royaume-Uni se dirige vers une rupture claire et nette avec l'UE.
Je veux être très clair. Ce que je propose ne peut pas signifier une appartenance au marché unique.
Il s'agit donc de reprendre le contrôle législatif, fini à terme l'autorité de la Cour européenne de justice. Il s'agit de reprendre le contrôle du budget avec la fin annoncée de la contribution britannique au pot européen, mais aussi reprise de contrôle des frontières et donc de l'immigration.
Le Brexit doit signifier le contrôle du nombre d'Européens arrivant en Grande-Bretagne et c'est ce que nous ferons.
L'objectif, c'est aussi la recherche du meilleur accord de libre-échange avec les Européens comme avec le reste du monde, aux meilleures conditions, notamment douanières. Un accord à parité dans le respect des parties, Theresa May met en garde contre un accord punitif de l'UE. La première ministre britannique insiste, le Brexit n'est pas une déclaration de guerre à l'Union européenne.
Nombreux sont ceux qui redoutent un détricotage de l'Union européenne, mais l'intérêt de la Grande-Bretagne est que l'Union européenne réussisse.
Voilà donc Theresa May qui éclaircit ce Brexit. Ça peut être contagieux, le Brexit?
Je ne crois pas. Si ça avait dû l'être, on aurait déjà vu. Mais tous les États membres, y compris ceux qui sont très liés au Royaume-Uni, je pense à la Pologne, je pense à Malte, j'y étais récemment, si vous voulez. Non, ils choisissent l'Union européenne, ils savent très bien où est leur intérêt. Il faut se rappeler quand même que le Royaume-Uni a toujours eu une attitude très particulière, a toujours préféré le grand large. Churchill lui-même, qui était très européen, qui a présidé le premier congrès de la Haye en 1948, voulait une Europe unie, mais sans le Royaume-Uni, en disant « c'est pas notre vocation ». Donc, voilà, alors, aujourd'hui, je pense que Madame May ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'elle a dit là. Il fallait tirer les conséquences du vote des Britanniques, que moi je déplore, évidemment. Mais c'est le vote du peuple britannique, il faut le respecter.
Dernière question, Sophie Mélébeau.
Oui, non, simplement, vous trouvez qu'elle a été si claire que ça? Parce qu'il y a aussi la possibilité...
Réponse rapide, on y reviendra après la pause.
Elle a été très claire sur le fait qu'elle quittait le marché unique, parce qu'elle ne veut pas de la liberté de circulation des personnes, de la Cour de justice et payer pour le budget européen. En revanche, après... En effet, là, c'est le plus grand flou, puisqu'elle a soufflé le chaud et le froid. Et je pense que, depuis le début d'ailleurs, que la diplomatie britannique est excellente, va essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre.
Alors, nous reviendrons sur ce Brexit juste après la pause d'actualité sur les antennes de TV5 Monde et de RFI. À tout de suite. Retour international sur les antennes de TV5 Monde RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Nous recevons Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ancienne ministre, notamment des Affaires européennes. Retour sur le Brexit, Christophe Ayad, sur les éclaircissements.
Madame Guigou, vous disiez que les Britanniques vont vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre, c'est-à-dire le contrôle de leur immigration et en même temps un accès au marché unique européen. Qu'est-ce qui est acceptable pour les Européens, qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Il y aura une ligne rouge, c'est que le Royaume-Uni ne peut pas avoir autant en étant à l'extérieur qu'en étant à l'intérieur. Et par exemple, le Royaume-Uni, on va négocier, bien entendu, puisque l'essentiel du commerce du Royaume-Uni se fait avec l'Union européenne. Ils vont avoir besoin de continuer à nous vendre. C'est pour ça que l'idée d'une alternative avec les États-Unis ou avec le Commonwealth, c'est théorique, si vous voulez, c'est epsilon dans la réalité de leurs échanges. Donc on va certainement négocier là-dessus. Mais ce qui est très important, c'est d'abord de savoir que le marché unique, c'est quatre libertés absolument indissociables. Donc, si on veut être dans le marché unique, c'est la liberté de circulation des personnes aussi. Et si on est dans le marché unique, on ne peut pas avoir le passeport financier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois faire des opérations financières à partir de Londres, dans l'ensemble de l'Union européenne, comme avant, quoi. Donc, et ça, c'était les passeports financiers, parce qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est évidemment très important. Donc, les quatre libertés. Par ailleurs, au point de vue de la méthode, ce qui est très important, et nous l'avons dit, parce que nous allons produire un rapport, il y a une mission spéciale de l'Assemblée nationale, présidée par Claude Bartolone, à laquelle j'appartiens bien sûr, mais plusieurs commissions de l'Assemblée, dans lesquelles nous travaillons sur Brexit, dont vous verrez un rapport d'ici le mois de février. Ce qui est très important en termes de méthode, c'est qu'on ne mélange pas les négociations du divorce, proprement dit, fameux article 50, qui, à partir du moment où Mme May aura invoqué cet article, et elle dit qu'elle va le faire...
Il n'est toujours pas déposé, en effet.
Au plus tard fin mars, ça va durer 2 ans, et ça veut dire qu'il va falloir discuter de quelques questions bien précises. Hein. Comment on organise cette séparation en termes de qu'est-ce qu'on fait avec les députés britanniques, qu'est-ce que nous faisons, sur quoi est-ce que le Royaume-Uni veut continuer à contribuer, parce que par exemple ils sont attachés à Erasmus, va falloir, comment on organise la sortie en termes financiers, parce qu'il y a des choses qu'ils vont devoir continuer à payer. Bon, tout ça, c'est des questions bien circonscrites. Hein. Et il ne faut pas mélanger ça avec les négociations sur le statut futur.
Non, mais c'est évident que ça va être le cas. C'est-à-dire que le statut des citoyens britanniques vivant dans l'Union européenne...
Ça, c'est autre chose. Nous pouvons nous entendre pendant les 2 ans sur la question de négocier ensuite sur un principe de réciprocité. Et tout le monde le fera comme ça.
Est-ce que l'Europe va punir la Grande-Bretagne ?
Bien sûr que non. Il ne faut surtout pas. Bien entendu pas. C'est leur choix. Tirons-en toutes les conséquences. J'ajoute même que nous avons, nous, Français, c'est un grand voisin, le Royaume-Uni, on a des liens multiples. Nous avons intérêt non seulement à garder la qualité de nos relations bilatérales, mais même à les intensifier, par exemple dans le domaine de la défense ou dans le domaine de la coopération à Calais. Mais qualité des relations bilatérales ne veut pas dire sacrifier les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée.
Et quels moyens est-ce que les Européens auront de réagir à des menaces du genre dumping fiscal, par exemple, si elles décident de réduire encore plus le niveau de taxation des entreprises
européennes? Bien sûr, c'est une menace qui est agitée actuellement. Je crois qu'elle trouvera quand même quelques limites. Parce que, pourquoi ? Vous avez noté que pendant la campagne sur le Brexit, Boris Johnson, qui en était le porte-parole, a dit on va utiliser la contribution du Royaume-Uni à l'Union européenne pour regonfler le système de santé britannique qui est en effet bien malade. Bon, donc il y aura des limites, parce que les Britanniques n'accepteront pas qu'avec une baisse drastique des impôts, on diminue encore la qualité de leur système de santé, on diminue encore... Donc voilà. Alors, tout ça, ça fait partie, bien entendu, de la rhétorique, c'est une bonne guerre, on va dire.
Oui, mais vous dites qu'il y aura des limites qui s'imposeront d'elles-mêmes, mais vous ne dites pas qu'il y aura des moyens pour les Européens d'empêcher ça.
Mais je vois pas comment on peut empêcher le Royaume-Uni de mener sa propre politique. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est nous Européens de dire voilà quelle politique fiscale commune nous voulons avoir. Arrêtons par exemple d'être encore trop indulgents vis-à-vis de la fraude fiscale et vis-à-vis des paradis fiscaux qui sont aussi condamnés par le G20 par exemple. Et les États-Unis qui sont membres du G20 vont bien être obligés de tenir compte de ces exigences du G20 sur lesquelles on devrait être beaucoup plus attentif. Par ailleurs, j'ai noté que il y a du côté du Royaume-Uni, voyez-vous, il y aura nécessairement la nécessité de négocier avec l'Union européenne. Donc je pense qu'il ne faut pas s'affoler avec ça.
Est-ce qu'il faut revoir
tout dépend de nous.
Est-ce qu'il faut revoir les accords de Douvres, par exemple, sur la question du contrôle de la frontière
Touquet, oui.
Du Touquet, pardon. Excusez-moi.
Écoutez, ce qu'il faut, c'est en tout cas ne pas être dans une attitude unilatérale en disant « il suffit de repousser la frontière de Calais à Douvres ». Bon. Il faut discuter avec le Royaume-Uni, obtenir davantage. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi le Royaume-Uni n'accepte pas les mineurs isolés qui sont encore... sur la côte, là, ou en France, parce que ça, c'est de l'humanité pure et simple. Donc, il va falloir être... Nous l'avons déjà été. Bernard Cazeneuve a obtenu beaucoup de choses, du Royaume-Uni, qui a financé beaucoup de contrôles, mais il faut continuer. Donc, je pense qu'on peut revoir ces accords, on peut, en exigeant davantage du Royaume-Uni, mais notre intérêt est qu'il y ait un accord avec le Royaume-Uni et pas une attitude unilatérale. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez un afflux encore... parce que les gens voudront aller à Douvres. Et donc on aura encore plus ces points de fixation, alors qu'on a toute une politique, Bernard Cazeneuve est absolument excellent là-dessus, de répartition des réfugiés, des réels réfugiés, que nous sommes obligés d'accueillir sur l'ensemble du territoire, et pas simplement à Calais, dans la jungle. Moi j'y suis allée, vous savez, on a une mission là-dessus, ça ne pouvait pas continuer comme ça, évidemment.
Alors, parler d'Europe avec un contre-sommet européen qui se déroulait donc hier et aujourd'hui à Koblenz. Ce sont les partis d'extrême droite, Marine Le Pen en France, Geert Wilders pour les Pays-Bas, qui pourraient d'ailleurs gagner, ou bien l'Italien Salvini. Est-ce que l'heure est au populisme et au mouvement d'extrême droite, alors qu'il y a 20 ans, la social-démocratie avait plutôt le vent en poupe en Europe?
Oui, mais c'est vrai, mais c'est un réel danger. Et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ici, en France... si Madame Le Pen accède au deuxième tour, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc,
vous pensez qu'elle peut gagner un jour l'élection présidentielle en France?
Oui, un jour, oui. Probablement pas cette fois-ci. Encore que, vous savez, faisons très attention.
Qui serait le meilleur candidat face à Marine Le Pen au second tour?
Je pense que, en tout cas moi je crois et j'espère que ce sera un candidat de gauche, voilà. Et je crois et j'espère, parce que je suis socialiste depuis le lendemain d'Épinay, vous voyez, 1972, c'est l'engagement de toute ma vie, je continue à croire, même si elle est très malade, en la social-démocratie, à condition qu'elle se renouvelle, qu'elle se rénove, bien sûr. Et j'espère... que nous aurons au deuxième tour...
Dimanche prochain. Pour l'élection présidentielle. Je précise pour nos téléspectateurs qu'il y a actuellement, aujourd'hui d'ailleurs, en ce moment même, le premier tour de la primaire pour désigner ce candidat de gauche. Nous en parlerons peu, puisque naturellement, cette consultation est en train de se dérouler. Mais Sophiette, vous vouliez une précision
quelque chose, ouais. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron est un candidat de gauche?
Ben, c'est à lui de le dire. Il a été non seulement conseiller, mais ministre de François Hollande, donc dans un gouvernement, et de Manuel Valls d'ailleurs, dans un gouvernement de gauche. Il a dit qu'il n'était pas socialiste, ce qui est une réalité. Ensuite, il a dit bon, la gauche et la droite, ça n'a plus de sens, ce qui pour nous pour moi, c'est pas acceptable. Je pense que ça a du sens. Surtout quand on voit le programme de Monsieur Fillon, n'est-ce pas? Qui veut supprimer 500 000 fonctionnaires. Je sais pas où il va les prendre, hein. Nécessairement, sur l'éducation nationale, sur la police, sur la justice, sur la fonction publique hospitalière et même sur les collectivités territoriales. Donc moi, je peux pas accepter ça. Il y a des différences. Le programme de Monsieur Fillon le montre amplement. Et donc ce sera à Emmanuel Macron. De dire à un moment, lorsque le candidat socialiste qui va être désigné
dimanche prochain,
aujourd'hui c'est le premier tour, de dire ce qu'il veut. J'attends.
Mm-hmm. Vous regrettez que François Hollande ne se présente pas ?
Je pense que il a pris la décision qui s'imposait malheureusement. Malheureusement, voilà. Mais je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'est dommage, oui, c'est très dommage, parce que d'abord je pense que l'histoire lui rendra justice, je pense qu'il a un bilan qui n'est pas évidemment aussi bon que nous l'aurions tous, y compris lui-même, espéré, mais il faut dire aussi qu'il a eu affaire à un héritage absolument calamiteux, mais calamiteux. Songez que là, quand le gouvernement Jospin en 2002 est parti, on avait une dette à 58% du produit intérieur brut.
On est à 100%.
Et après Sarkozy, oui d'accord, mais enfin après Sarkozy, on était au-delà des 90%. Mmh. Hein? Donc quand même, alors si vous voulez, Monsieur Fillon, il va pas pouvoir longtemps prétendre avoir oublié qu'il a été Premier ministre de Monsieur Sarkozy pendant 5 ans. Mmh. Il est comptable de ce bilan-là. Donc François Hollande, il a au moins réussi à redresser les comptes. Il a réussi, tout en redressant les comptes et de la sécurité sociale et du budget de l'État, à faire des réformes progressistes. Je pense au compte permanent d'activité, je pense à la garantie jeune, par exemple, pour ne citer que cela.
Vous avez été l'une des figures de ce qu'il était convenu d'appeler la gauche plurielle sous Jospin. Aujourd'hui, c'est un autre mot qu'on entend, ce sont les gauches irréconciliables. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je ne pense pas que les gauches soient irréconciliables.
C'est ce qu'a dit Valls.
Non, mais on lui a, très franchement, on a tiré ses propos, alors qu'on le comparait à Sarkozy. Franchement, ça, c'était des propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est inacceptable.
Voilà. Les gauches peuvent se réconcilier.
Ce qui est irréconciliable, c'est qui est ce genre de propos à l'intérieur de la gauche. Alors, moi, je déplore l'évolution de Jean-Luc Mélenchon, qui a été avec nous au gouvernement, hein, sous Jospin, qui a été un bon ministre d'ailleurs, mais qui alors après, donc si vous voulez, lui aussi il surfe, hein, sur une vague populiste. Je note d'ailleurs que les communistes lui apportent leur soutien, mais ils sont pas tous unanimes à son égard, loin de là. Hein. Et donc, ce que j'espère, c'est que il y aura un rassemblement de la gauche, parce qu'il faut pas non plus confondre les électeurs, vous savez, ils ont pas envie, nos électeurs de gauche, ils exècrent évidemment tout ce que représente et tout ce que la politique que mènerait Madame Le Pen, hein, qui veut sortir pas seulement de l'euro, qui veut sortir de l'Europe, qui naturellement est xénophobe, fondamentalement. Elle a remplacé l'antisémitisme de son père par l'anti-musulman. Hein, voilà. Mais ils veulent pas de la politique de Monsieur Fillon. Moi, François Fillon, c'est une personnalité que je respecte et j'estime. Il est membre de la commission des affaires étrangères.
Le président.
Mais je suis en complet désaccord avec ce qu'il propose.
Je reviens un petit peu à l'échelon européen. Vous avez l'air quand même très optimiste par rapport à l'attitude des Européens, mais il y a un calendrier qui est celui-là, c'est que le Brexit est en train de se faire et que les élections en France, en Allemagne, même aux Pays-Bas, tout ça, c'est avant que ces problèmes ne soient résolus. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un déni de réalité par rapport à cette montée de l'extrême droite en Europe?
Non, mais...
Et qu'il manque un sursaut, quelque chose d'extraordinaire qui ne soit pas juste...
Pas du déni de réalité, au contraire. Moi, je ne sous-estime pas la profondeur de la crise européenne. Je la déplore. Et je dis qu'il faut réagir par rapport à ça.
Mais ça fait longtemps qu'on dit il faut réagir.
Et c'est pas la faute de la Commission européenne. La Commission européenne, elle occupe l'espace quand on lui laisse cet espace. Et donc la Commission européenne, c'est pas la direction politique, c'est pas elle qui prend les décisions. Elle prend les décisions que les traités lui disent de prendre. Donc c'est aux Européens, c'est-à-dire aux chefs d'État et de gouvernement, de reprendre l'Europe en main. Moi, je crois beaucoup à cette proposition de Manuel Valls, qui est de remettre les choses à plat, c'est-à-dire de faire davantage, comme on dit, de subsidiarité dans le jargon, c'est-à-dire de redéfinir les priorités européennes autour de quelques grandes priorités politiques, et que, à partir de là, les chefs d'État et de gouvernement aient le courage et l'envie d'être véritablement les leaders et de s'accorder. Et si on ne peut pas le faire à 28, eh bien qu'on le fasse à quelques-uns, les traités le permettent.
Madame, mais comment on fait, juste, comment on fait quand on est un gouvernement de gauche ou un exécutif de gauche et qu'on a affaire maintenant à des institutions européennes qui sont toutes aux mains de la droite?
Oui, ça date pas d'aujourd'hui, à la gauche de se ressaisir et de dire voilà ce que nous proposons et de le faire en ordre, mais en même temps nous voyons bien, l'Europe c'est forcément comme gouverner d'ailleurs, c'est forcément toujours un compromis, et le problème c'est qu'il faut que la gauche soit plus forte. Moi je suis pas optimiste, je dis qu'il faut avoir la volonté de prendre ses affaires en main. Voilà.
Christophe Ayad.
Madame Guigou, il semble que vous soyez assez proche de l'analyse d'Hubert Védrine, c'est-à-dire on fait une pause, on se reconcentre sur les choses importantes et puis quoi, on fait un nouveau traité?
Non mais se concentrer sur les choses importantes, ça fait longtemps qu'on le dit. Vous savez, moi je suis membre de l'Institut Jacques Delors depuis sa création, hein, et vous pouvez regarder tous les documents, et d'ailleurs l'idée, si vous voulez, de refonder autour de quelques grandes priorités, ça fait des années et des années qu'on l'a dit. Donc
pourquoi on y arrive pas ?
Avec ça, je suis d'accord. En revanche, l'idée de pause en général me gêne. Pourquoi ? Parce que, oui, il y a une pause sur l'élargissement, certainement. Mais une pause générale, vous croyez qu'on peut continuer avec une union économique et monétaire aussi fragile dans le monde d'aujourd'hui ? Il va falloir continuer à renforcer l'union économique et monétaire et avoir le courage d'expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en effet, d'abord, une entente entre la France et l'Allemagne. La France continue ses réformes courageusement. Et l'Allemagne investit davantage en Allemagne et en Europe sur des grands projets d'infrastructure. Alors voilà, et c'est ça. Alors c'est ce qu'a d'ailleurs commencé à faire François Hollande. Je rappelle, et là on est très injuste à son égard, quand il est arrivé en juin 2012, il a obtenu un premier plan de relance, plan Juncker, de 120 milliards. Aujourd'hui, on en est, le président de la Commission lui-même dit, on pourrait faire 500 milliards. Mais il faudra aller au-delà. Il faut faire davantage pour le numérique, pour la recherche, pour... En matière de défense, moi, j'ai participé à un groupe, c'est Jean-Yves Le Drian m'avait demandé de le faire, sur ce qu'on appelle la recherche duale, c'est-à-dire permettre pour la première fois à la Commission européenne, enfin, au budget européen, de financer des recherches en matière militaire. Donc voilà l'avenir. Alors si vous voulez, moi je suis pas ni optimiste ni pessimiste d'ailleurs. Je dis prenons nos affaires en main, et Monsieur Trump va, j'espère, et le Brexit doit nous inciter encore davantage à le faire. Donc il faut une volonté forte. Alors c'est vrai que la période, vous avez tout à fait raison, la période n'est pas propice parce qu'on a ces élections en Allemagne. Enfin, j'observe que l'Union européenne est très résiliente. Hein. Vous posiez, pour commencer, la question de savoir s'il y allait avoir un effet domino du Brexit, ben non.
Voilà. C'est la prophétie
alors,
de Trump.
Ce qu'il faut, l'Union européenne est résiliente, elle résiste dans son unité. Le sommet de Bratislava a été, moi j'en étais heureusement surprise, en juin dernier, une manifestation d'unité autour des principes de l'Union européenne. Maintenant, il faut qu'elle soit beaucoup plus offensive, beaucoup plus dans les initiatives.
Et c'est justement sur le plan de la politique étrangère, européenne, parce qu'on a à faire face à une Europe qui est tellement concentrée sur ses propres problèmes. Est-ce que, au moment où les Américains repartent dans l'isolationnisme et peut-être l'abandon vraiment de l'Afrique, par exemple, est-ce que les Européens ne devraient pas commencer à s'intéresser davantage à avoir une véritable politique étrangère vers la Méditerranée, vers les pays africains qui sont dans les pires difficultés aujourd'hui, avec non seulement le terrorisme, mais simplement le développement économique ?
Eh bien, voyez-vous, moi je considère, et je suis très heureuse de votre question, que l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Voilà. À tous égards. Naturellement qu'il y a des gros problèmes encore aujourd'hui en Afrique. On voit très très bien qu'il y a des problèmes de gouvernance. Là, ce qui s'est passé en Gambie montre que ça ne va pas tout seul. Les alternances, elles se font. En Côte d'Ivoire, elles se sont faites. Au Sénégal, ça va mieux, etc. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes d'insécurité majeure, notamment dans toute la bande sahélo-sahélienne. Mais il n'y a pas que ça. L'Afrique est un continent d'avenir, c'est le continent de la croissance, c'est le continent de l'émergence du numérique où les Africains ont sauté des étapes.
L'étape du fixe.
Ce que le sommet de Bamako d'ailleurs a parfaitement montré. Les Africains commencent à prendre leurs propres affaires en main, on l'a vu dans la médiation en Gambie, et de plus en plus, j'espère que ce sera le cas. Et nous avons intérêt, nous Européens, à avoir un nouveau partenariat avec l'Afrique, qui soit un partenariat d'égal à égal, qui tourne vraiment le dos. Hollande a commencé à le faire, à cette détestable France-Afrique, n'est-ce pas, qui nourrissait la corruption, disons-le clairement, hein, mais un véritable partenariat d'égal à égal, dans lequel on accepte de partager la valeur ajoutée, parce qu'on sait que si on fait ça, on créera des emplois en Afrique, qu'on maîtrisera mieux les migrations avec eux et que aussi on créera des emplois.
Madame Guigou, ce qu'on observe, c'est que dans un immédiat proche, à partir de la semaine prochaine, Donald Trump va probablement lancer le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem à Jérusalem, ce qui concerne au premier chef les Européens qui financent l'autorité palestinienne.
Ou la colonisation reprend d'ailleurs.
À partir de lundi, débutent des négociations de paix à Astana entre le régime syrien et l'opposition sous la tutelle, enfin l'égide de la Russie, la Turquie et l'Iran. L'Europe est totalement absente de ces deux dossiers qui la concernent au premier chef, que ce soit le conflit israélo-palestinien qui est à ses portes, ou que ce soit la guerre en Syrie, où les réfugiés finissent en Europe. Donc comment... Où est l'Union européenne?
Non, elle n'a pas de politique étrangère. Elle a été présente en Iran, sur le nucléaire. Donc il faudrait... Alors, ce qui est vrai, c'est que sur la Syrie, il faut donner sa chance au processus d'Astana. C'est d'ailleurs ce que les Européens ont fait au Conseil de sécurité.
C'est une bonne chose, Astana.
En tout cas, c'est peut-être une chance pour la paix. Ne la gâchons pas. C'est vrai qu'il y a des violations, mais ce qui s'est conclu aux Nations Unies, avec l'accord de la Russie, c'est qu'on restait dans le cadre, cet accord de paix doit être dans le cadre de ce qui a été convenu lorsqu'on a lancé les négociations de Genève, c'est-à-dire, évidemment, d'impliquer toutes les composantes de la société syrienne, et c'est d'abord aux représentants de l'opposition syrienne de dire ce qu'ils veulent. Pour l'instant, ils sont en majorité à Astana. S'il y a une chance pour la paix, jouons-la.
Et
la deuxième chose...
sur le Proche-Orient ?
Ça, c'est dramatique. Dramatique, parce que on connaît très très bien depuis Oslo, les paramètres de la paix.
Deux États,
Jérusalem, capitale des deux États, et non pas d'un seul. Et bien sûr, après des discussions forcément entre les deux principaux protagonistes, Israël et l'autorité palestinienne, ça ne se passe pas comme ça, parce que la colonisation continue. Moi, j'ai fait, vous savez, voter à une écrasante majorité à l'Assemblée nationale le principe de la reconnaissance de l'État palestinien, parce que je pense que si ça continue comme ça, il ne pourra plus y avoir d'État palestinien, parce que tout est mité partout en Cisjordanie, et puis que la situation et le statu quo est extrêmement dangereux.
Est-ce qu'il faudra reconnaître avant la fin du mandat de François Hollande pour
alors,
la Palestine?
Là où je ne suis pas d'accord avec... vous avez fait une remarque en disant l'Europe est... Non, la France a été à l'initiative. Il y a encore la semaine dernière...
Une conférence qui n'a débouché sur rien.
Voilà, oui, mais c'est important de continuer à entretenir, n'est-ce pas? Et il y avait quand même une soixantaine de pays qui étaient représentés.
On n'est pas les principaux.
De continuer à montrer que la communauté internationale veut la solution à deux États. Et j'espère que le relais va être pris par la société civile, parce qu'il y a aussi bien en Israël que côté palestinien, il y a certes des gens qui ne croient plus dans la solution à deux États, mais il y en a aussi dans ces deux pays qui croient à la solution à deux États, c'est eux. Alors j'espère qu'on va arriver d'ailleurs à l'Assemblée nationale, j'y travaille actuellement, à faire une rencontre, voilà, parce qu'il faut que je pense que les sociétés civiles s'expriment, des sociétés civiles autour de ce principe et cette volonté des deux
États. Dernière question. Comment dire, les choses se gâtent, ou si les États-Unis ne sont plus un honnête négociateur, comme on dit, est-ce qu'il faut que la France reconnaisse l'État palestinien ?
Une réponse très rapide.
Je pense qu'il faut essayer de le faire avec les Européens. Je ne pense pas à une attitude unilatérale de ce point de vue-là. Nous le souhaitons, bien entendu. J'espère que plusieurs parlements et qu'une situation se créera. Mais ce qu'il faut surtout, c'est faire reprendre les discussions, faire les pressions nécessaires pour faire reprendre les discussions entre Israël et les Palestiniens.
Merci Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, ancienne ministre, d'avoir été avec nous pour commenter cette actualité internationale. Merci d'avoir été des nôtres. Nous retrouvons, vous le savez, dimanche prochain pour un autre numéro de cette émission d'International, RFI, TV5 Monde et le quotidien Le Monde. Excellente suite de programme.
RFI. Fixation of elation, instant able to listen to the time.